I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'allais vous le dire, le podcast du Canal Football Club qui donne la parole à Christophe Jallet, footballeur de son état depuis 18 ans. Il est passé partout, ou presque, dans des grands clubs, le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, dans des clubs historiques comme l'OGC Nice, dans des clubs plus modestes, Niort, Lorient, et aujourd'hui Amiens. Cet homme est une mémoire vivante, il est toujours en activité en Ligue 1. Et je rappelle que Christophe, vous êtes le protagoniste numéro 1 de ce podcast, mais que nous sommes accompagnés de Philippe Doucet, qui en a vu d'autres. Lui, c'est pas 18 ans de carrière. Hein. C'est combien de carrière, Philippe ?
31. Pour voilà. Canal, pour Canal seulement.
Un truc totalement impossible pour un footballeur. Hein, 31 ans
a priori, Stanley Matthews, peut-être, ouais. A dû faire ça. Ouais.
Aline Riera, elle est encore jeune, mais elle a fait une belle carrière dans le foot féminin, principalement à Juvisy. 14 saisons dans le club de la banlieue parisienne, place forte hein, du foot féminin, qui a désormais fusionné avec le Paris Football Club. 5 ans à Saint-Brieuc, c'était le foot féminin d'avant la médiatisation. Et vous le commentez hein, désormais sur les antennes de Canal, Aline. Enfin, il n'a aucune sélection en équipe de France. Et croyez-moi, c'est mieux pour la patrie.
Merci.
Sébastien Thoen, Troublion notamment... Action discrète, les ozos, et il anime également une émission de sport sur Canal le premier samedi du mois à minuit.
Le Canal Sport Club ?
Non, il y a l'autre aussi. C'est à une autre, beaucoup plus sérieuse, le Canal Sport Club, c'est pas celle-ci auquel je pensais.
C'est vrai.
Le Canal Sport Club, c'est le samedi en fin d'après-midi. Dans ce podcast, on ne va pas parler de jeu hein, proprement dit. Ce qui nous intéresse, Christophe Jallet, c'est votre expérience de l'intérieur sur les choses de la vie. On va parler de la vie de vestiaire, mais pas des anecdotes de foot. Non, on a envie de savoir de quoi sont en fait les conversations de footeux. D'après la légende, les footballeurs parlent essentiellement des filles. Et quand leurs femmes arrivent, ils se mettent à parler de bagnole. Est-ce que c'est vrai ?
Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Je savais, c'est un vrai thème, ça.
Ouais.
Justement, tu vois, il y a une recherche là.
Non, mais
ça pose des questions. Quoi.
Tous les sujets sont abordés.
Tous les sujets.
Donc
bah,
ces deux-là en font partie.
Bon, très bien. Mais ça, on va
pas. Ah, quand même.
Donc c'est bien.
C'est pas complètement fou.
Vous avez débuté à Niort il y a très longtemps. Est-ce que les sujets de conversation étaient les mêmes entre les vestiaires d'aujourd'hui et ceux que vous avez connus il y a plus de 15 ans ?
Ça a complètement évolué aujourd'hui. C'est... totalement différent. Il y a des sujets similaires, évidemment, heureusement. Tout le monde parle de l'actualité. C'est quand même très largement
politique.
Suivi. Ouais, politique.
Alors on va en parler, c'est justement le thème de notre podcast.
Ouais. Ouais, tout à fait, on parle de tout. Mais oui, il y a une grosse évolution aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est... le problème, c'est le téléphone portable dans le vestiaire, ça c'est clair.
Ce qui fait qu'il y a moins de conversations ?
Pas forcément, parce que ça en développe de nouvelles. Qui ne sont pas forcément plus intelligentes, mais ça en développe
alors,
de nouvelles.
Alors, qui vote Mélenchon, par exemple ? Parce qu'il y a pas mal des joueurs de foot.
Il y en a qui ne le connaissent pas, je pense.
Est-ce que ça parle foot, dans un vestiaire de foot ?
Oui. Ouais, vraiment. Puis, pour l'anecdote, par exemple, à Amiens, là, on a une télé, une belle télé tactile sur laquelle on fait du travail tactique.
Des palettes.
Ouais, des palettes magnifiques. Et il y a aussi, en ce moment, tous les jours, ils mettent des skills, qui s'appellent des skills, les actions des plus grands joueurs.
D'accord.
Et ça permet de s'enrichir footballistiquement parlant.
Parce qu'on entend dire souvent, Philippe Doucet, que les footballeurs aiment moins le foot qu'avant. Vous confirmez, vous qui avez connu Stanley Matthews, justement.
on a connu toute une génération de joueurs qui regardaient la télé, qui regardaient les matchs, qui étaient au courant, qui rêvaient même de ces matchs étrangers ou autres. Effectivement, paradoxalement, maintenant que les matchs sont visibles à peu près partout, dans n'importe quel pays, on peut voir les matchs, on a... effectivement, souvent la sensation qu'il y a, enfin, c'est pas la sensation, les joueurs le disent eux-mêmes, enfin, un certain nombre de joueurs le disent eux-mêmes, qui regardent pas les matchs, qui regardent pas la télé, qui regardent même pas le match de l'équipe qu'ils vont rencontrer la semaine d'après, quoi.
Toi qui as bien connu Raymond Coppa, par exemple.
Plus qu'avant ou pas, ça, Christophe Jallet ?
C'est vrai que paradoxalement, des fois, le trop de foot tue le foot, donc il y a un moment donné où il y a une overdose, mais je pense que, sincèrement, en tout cas, pour les joueurs que j'ai côtoyés, pour la grande majorité, ils regardent quasiment tous les matchs. Mais ne serait-ce que hier encore, il y avait les matchs de Ligue des Champions, on a regardé les deux matchs en même temps. Il y avait deux télés.
D'accord. Et donc, alors, vous commentez les matchs des grands joueurs, des grandes équipes, dans le vestiaire d'Amiens, par exemple.
Ah oui, puis c'est quand même hyper enrichissant de voir ce qui se fait de mieux. Donc la Ligue des Champions, c'est le passage obligé. Après, je ne vous dis pas que tout le monde regarde le match du vendredi soir de Ligue 1 ou celui de 17h. Bon, souvent, on est en mise au vert, ouais. Mais c'est pas exclusivement la Ligue 1 qu'on regarde. Mais en tout cas, les grands rendez-vous, ça, c'est raté par pas grand monde, ça, c'est clair.
Ce qui est particulier, c'est que vous parliez du Paris Saint-Germain. Par exemple, en l'espace de quelques jours, vous avez joué contre le Paris Saint-Germain et regardé le Paris Saint-Germain contre Dortmund. 3 jours d'écart et à la fois, vous êtes acteur à un moment donné et ensuite spectateur et supporter éventuellement.
Ouais, clairement, ouais. C'est vrai que quand on joue pas les grandes compétitions... On les suit et on joue contre eux. Donc c'est vrai que c'est puis il y a des joueurs qui sont totalement fans d'une équipe. Hein. Donc c'est clair que au-delà de le regarder, il est vécu avec passion.
Est-ce que les autres sports intéressent les footballeurs ?
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Le jokari ?
Le jokari en fait partie. C'est même, je pense, qu'il est dans le top 3.
Non, mais dans les grands sports, t'as quoi ? Par exemple, toi, t'es fan d'un autre sport ?
Je suis fan de tous les sports. En général, je regarde tout ce qui est possible. Je regarde des fléchettes. J'adore regarder les fléchettes à la télé, par exemple.
Non, c'est passionnant.
C'est passionnant, non, mais bon, c'est le rugby, mon
deuxième sport.
Le deuxième sport que je regarde.
Ça, c'est le côté cognac, ça.
Un petit peu, puis mes amis d'enfance sont tous rugbyman, donc forcément. J'ai été éduqué au rugby. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre du rugby, notamment les valeurs. Qui sont pour moi hyper intéressantes.
Les valeurs de l'Ovalie.
Oui, non mais clairement.
La troisième mi-temps,
vraiment,
tout ça.
Non, ouais, je parlais pas de ça, mais vraiment, il y a vraiment de la sincérité dans ce sport et même si c'est un peu brutal de temps en temps, on a beaucoup à s'en inspirer. Donc voilà. Après, j'adore le golf. Je pratique aussi, donc je peux le regarder à la télé. Et après, voilà, ça passe partout. Le tennis, le hand, le basket. À partir du moment où il y a un club français qui joue, je suis comme un ouf.
Bon, alors oublions le sport et oublions même le foot. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'actualité était très présente dans le vestiaire. Tiens, juste pour... J'ai commencé avec un cliché, hein, les footballeurs qui ne parleraient que de bagnoles et de femmes. Aline Riera, vous avez fréquenté des vestiaires de foot féminin pendant des années. Il y a aussi des clichés qui sont attenants au vestiaire féminin.
Oui, on parle chiffon, bien sûr. Non, je plaisante.
Ça se passe comment dans un vestiaire de foot féminin?
Ça se passe comme dans tous les vestiaires. Alors, j'ai pas envie de dire un vestiaire de foot féminin parce que ça reste un vestiaire de football. C'est la même pratique. Alors moi, je suis un peu plus âgée que Christophe, donc on n'a pas la télé dans le vestiaire. Mais nous, c'était à une période où on était quand même pas mal en difficulté. On était au niveau national, on avait peu de moyens. Donc,
et la télé n'existait pas, surtout.
La télé n'existait pas, c'était presque pas en noir et blanc. Non, mais c'est vrai que nous, la difficulté, c'était les conversations qui pouvaient arriver. On travaillait toutes, on était toutes étudiantes de la journée. Donc c'était le temps qu'on avait mis dans les bouchons, c'était la difficulté pour chacune de gérer tout ça,
gérer charge le sommeil finalement.
Oui, voilà, c'est tout ce qui allait autour de ça parce que c'était pas super confortable. Et à côté de ça, on avait envie de passer à autre chose. Donc il y avait franche déconnade, on était souvent en retard. Enfin voilà, il y avait et tout ça parce que justement dans la difficulté, on a besoin d'évacuer. Donc c'était pas les clichés d'un vestiaire féminin, c'est un vestiaire. Et je suis rentrée parfois avec le micro de Canal en bord terrain dans les vestiaires masculins et les conversations restent les mêmes, les inquiétudes de chacun liées à l'actualité, à sa propre actualité ou à l'actualité en France, ça reste ça.
Par exemple, dans tes vestiaires, toi, c'était est-ce que t'as mis ta barrette et chez les mecs, est-ce que t'as mis ta barrette de shit ?
Ça, c'est pas
c'est quasiment le même début.
Il y a un dénominateur commun.
Parlons de l'actualité et parlons de l'actualité qui s'invite dans un vestiaire de foot. Le dernier sujet d'actualité sur lequel vous avez le souvenir d'avoir discuté, c'est lequel par exemple ?
Ce matin, du coronavirus.
Ouais, tout le monde en parle.
C'est le sujet d'actualité qui est un peu prédominant.
Est-ce que la politique, on en parle dans un vestiaire de foot ? Est-ce qu'on en parle dans le vestiaire d'Amiens ?
Oui, bien sûr qu'on en parle. Après, c'est vrai qu'on n'échange pas sur ce sujet avec tout le monde. Nous, on a un vestiaire, on a un super melting pot, on a pas mal de nationalités différentes, donc c'est pas toujours évident de débattre sur un sujet, mais oui, on parle évidemment de politique, ça arrive assez fréquemment, encore plus avec les actualités ces dernières années. Forcément, on est obligé d'en parler, puisque ça nous impacte.
Vous avez de mémoire avec des joueurs avec qui t'as joué, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était impliqué un peu politiquement ? Tu sentais qu'il avait envie d'en parler, qu'il était soit au PSG ou à Nice ou...
On est tous impliqués, mais après, de toute façon... qu'est-ce qu'on va y changer ? Pas grand-chose, mais on a le droit d'avoir un point de vue, et ça, tout le monde l'échange, ça c'est clair. Dans tous les clubs où je suis passé, on a tous un avis sur la politique, sur le monde en général, et ça permet justement parfois de découvrir qu'une personne, c'est pas seulement un joueur de foot, quoi, et bien heureusement.
Nous, par exemple, on sait que Sébastien Thauvin est pétainiste, mais...
Ça pouvait être vrai.
Vous connaissez les opinions politiques de vos coéquipiers, de la plupart ?
Pas de tous, mais certains, oui. Ouais, forcément, il y a des périodes électorales où on nous bassine avec ça à la télé, et c'est important. Donc, évidemment, quand j'avais 20 ans, j'avais pas forcément ce type de discussion, mais je trouve que tout le monde s'y intéresse de plus en plus, quand même. Par rapport à l'époque où moi, j'étais plus jeune, on en parlait moins.
Et on parlait de quoi alors quand t'étais plus jeune ? C'était vraiment foot ou déjà
ouais. Oui, quand j'étais jeune en plus, on était en Ligue 2, c'était foot, c'était Lyon, c'était la Ligue des Champions.
Ouais, on parlait des joueurs au-dessus.
Évidemment, c'est toujours le sujet quand même prédominant. Quand on arrive le matin, c'est très souvent, s'il y a eu un match la veille, t'as vu ce qui s'est passé, quoi. C'est quand même assez fréquent, c'est le sujet récurrent, logique.
Est-ce qu'il y a sur la politique, des joueurs, est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre carrière des joueurs un peu xénophobes ?
Non.
Ça n'existe pas dans le foot, parce qu'il y a trop
si,
de...
Si, ça doit exister, mais oui, on est au cœur du sujet. Il y a des joueurs qui arrivent de tous horizons, toute religion, toute nationalité. Je vois mal quelqu'un xénophobe pouvoir jouer avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, il ne ferait pas long feu dans un vestiaire.
Et des joueurs hétérophobes ? Non ? Ça paraît plus dingue, ça.
Ouais, mais je crois pas.
La crise des gilets jaunes, est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué dans le vestiaire ?
Ouais, j'étais à Nice et effectivement, de toute façon, ça c'est vraiment un sujet qui a touché tout le monde et puis on est directement confronté puisque tu viens à l'entraînement, tu les croises les gilets jaunes, donc t'as des difficultés, t'en parles, ça te plaît pas, tu comprends pas, il y a un échange. Voilà, c'est quelque chose qui a été récurrent aussi en sujet de discussion pendant un petit moment.
Sachant que vous faites partie des gens un peu privilégiés dans la société.
Complètement.
Du coup, qu'est-ce qui se dit ?
C'est difficile. Hein, le truc, c'est que comme on a ce statut de privilégié, quoi qu'on dise, on va forcément être jugé. Soit ça va être du démago, soit ça va être de toute façon, lui, il peut rien y comprendre. Mais on est comme tout le monde, on a le droit de se mettre à la place des gens et on a aussi des familles. Qui n'ont pas notre statut et qui sont complètement dans le système, on va dire, classique. Donc forcément, c'est des discussions familiales qui se terminent dans le vestiaire.
Est-ce que ça parle beaucoup d'argent dans un vestiaire de foot pro ?
Ça en parle, ouais.
De comment ?
Malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc c'est jamais parler d'argent perso. Parce qu'il y a très peu de
personne balance son salaire.
Non, ça arrive ça rarement. De toute façon, les journalistes s'en chargent, donc il y a pas besoin de le dire.
Justement, le journal L'Équipe, par exemple, assez régulièrement, une fois par an, publie les salaires supposés, en tout cas, des joueurs. J'imagine que le lendemain ou le matin même, quand vous êtes débarqué avec le journal à la main, tout le monde l'a lu. Ça suscite des discussions, voire des regards, non ?
Ouais. Bon, après c'est. Même si on ne le lit pas, on le sait forcément, s'il y a forcément quelqu'un de notre entourage qui l'a lu et qui va dire quelque chose. Donc oui, évidemment, mais c'est souvent tourné à la déconnade. Ah tiens, ils m'ont oublié tant. Ou je ne pensais pas que lui, c'était ça. Évidemment, c'est un sujet de conversation, mais il n'y a personne qui s'attarde dessus. En toute sincérité, c'est pas quelque chose... J'ai jamais ressenti de jalousie entre deux personnes par rapport à un salaire. Moi, après... Que ça soit pour n'importe quel milieu, si quelqu'un gagne beaucoup d'argent, tant mieux pour lui, c'est qu'il a réussi. Je vois pas pourquoi
on
est jaloux des autres.
Sauf si vous pouvez estimer personnellement que vous valez plus.
Parce qu'il s'est mal démerdé, c'est tout. Faut pas s'en prendre aux autres. Hein. Le mec, il a fait sa négociation, il a eu son truc. T'as qu'à faire pareil. Et puis, pour tous les jaloux, si par exemple le mec, il estime que celui qui joue à sa place, il devrait pas gagner autant, il a qu'à se bouger deux fois plus sur le terrain pour gagner comme lui. C'est tout.
Alors les gens ne parlent pas de leur salaire, mais vous dites que ça parle beaucoup d'argent quand même. Donc ça parle de quoi exactement ?
Ça parle de tout. Ça parle de... Je ne sais pas exactement. Par exemple, telle voiture a coûté ce prix. Je voudrais bien cette montre, mais elle est trop chère ou machin. Ou je ne mettrais pas autant dans une montre. C'est quoi ce délire ? Je préfère m'acheter un appart.
C'est vraiment un cliché sur les footballeurs. C'est très bling-bling, qui aiment bien collectionner voitures, les montres.
Je pense que c'est un reflet de la société. On aime tous avoir de belles choses, mais il y en a qui ont des aspirations complètement différentes selon les personnalités. Il y en a qui, aiment bien être bien habillés. Il y en a d'autres qui en ont rien à faire et qui préfèrent mettre leur argent de côté. Après, ça regarde. Enfin, moi, j'aime pas ce genre de discussion parce que c'est vraiment, pour moi, c'est comme on dit, dans le foot, il y a une expression, c'est chacun son chacun. Bon, bah ouais. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte, fait ce qu'il veut de son argent. Juste, on a la chance de pouvoir vivre très bien de notre métier. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse en bénéficier à la fin et qu'il n'y en ait pas qui se perdent en route. C'est ça qui est dommage.
Les fringues, c'est très important quand même. Il y a beaucoup de chambrage sur la manière de s'habiller.
Ouais.
Vous faites partie de ceux qui se font chambrer parce que vous êtes habillé à peu près normalement, d'ailleurs, non ?
Non, ça va.
Non, ça va ?
Non, mais je suis souvent épargné, moi.
Les gens très jolis tailleurs.
Les gens m'aiment bien. C'est vrai, je suis passé du slip au tailleur maintenant. Oui, c'est vrai que c'est un sujet. Bah, on aime bien chambrer de toute façon. Investir de foot, ça chambre tout le temps. Je pense que c'est pareil chez les filles. C'est toujours dans l'attaque. Ouais. Voilà, c'est l'attaque permanente. Donc le moindre petit truc est tout de suite soumis à l'avis général. Et là, ça peut être un tollé pour celui qui est à la rue.
Vous confirmez, Aline Riera, ça chambre énormément chez les filles aussi ?
Oui, bah, ça chambre. De toute façon, on l'a dit, hein, c'est le même vestiaire. Après, on annonce la couleur en disant bon, aujourd'hui, pas sur le physique ou pas sur les fringues. Ou voilà, on met quelques freins, mais voilà, la partie vestimentaire, on est tous passés par là. On a tous été mal habillés avec des survêtes qui n'étaient pas coupées pour nous. Alors nous, c'était la difficulté, c'était qu'il n'y avait que des tailles hommes, donc on était tous habillés comme des sacs parce que bah, voilà, c'était super large. On ressemblait à rien, les maillots pareils. Donc voilà, c'était à celle qui ressemblait le moins à une patate avec les survêtes. Mais après, voilà.
Bon, ça a bien changé pour le coup. Hein,
bah, ça commence à... Oui, quand même.
Bon après, je pense que c'est social. Hein. Vous allez dans une cour d'école, les gosses, ils parlent de leurs fringues aussi. Hein. Ouais. Donc, il y a pas de...
Les footballeurs sont des gosses.
Exactement. Bah, on est des grands enfants, ça c'est sûr.
Pour rester un petit peu sur l'argent, il y a Steve Savidan qui a une sélection en équipe de France qui avait décrit une ambiance, après il y a un passage furtif hein, chez les Bleus, une ambiance un peu étrange où les joueurs passaient leur vie à faire des paris, des challenges contre 100 euros, 200 euros, 300 euros, et ça l'avait mis particulièrement mal à l'aise. Est-ce que lorsqu'on fréquente l'équipe de France, et vous l'avez fréquenté, vous avez 16 sélections, on a affaire comme ça à des gens, il n'y a que des gens qui jouent dans des grands clubs, donc un peu déconnectés, qui ont tendance à se faire à mettre de l'argent un peu partout. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ?
Pas du tout.
Non ?
Bah, je n'ai pas eu ce type de relation. En tout cas, après, que des gens parient pour un truc ou un autre, voilà. Bah, c'est sûr que si on fait le ratio entre quelqu'un qui est au SMIC, qui va parier 2 euros, et des mecs qui gagnent beaucoup plus, ils vont parier beaucoup plus. C'est vrai que des fois, ça peut mettre mal à l'aise, je l'entends totalement, c'est clair. Ça peut être malsain, c'est sûr, vis-à-vis enfin, d'un regard extérieur. Après, ce n'est pas fait volontairement pour dire on va choquer les gens, quoi. Mais je comprends tout à fait qu'il ait pu se sentir mal à l'aise, mais je n'ai vraiment pas eu en aucun cas ce sentiment en équipe de France, jamais.
Il y a une particularité dans un vestiaire de foot, et c'est vraiment le cas à Amiens, c'est le côté très international. Il y a des joueurs qui viennent de un peu partout.
Ouais.
Est-ce que les joueurs racontent leur parcours, leur vie à l'étranger, leur vie dans leur pays d'origine ?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que nous, on a cette chance d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Il y a énormément de nationalités. Alors des fois, c'est un peu compliqué pour échanger, parce que quand on fait une blague en français, pour la faire en anglais ou en espagnol, ça passe pas pareil, mais de ce côté-là, après, pour échanger sur la vie de chacun, les origines, sur la façon de voir le foot, d'apprendre comment, par exemple, ça se passe dans leur sélection, en Afrique, en Colombie, parce qu'on a ça dans notre vestiaire, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, et je pense que ça permet d'ouvrir les yeux sur le monde complètement. On a cette chance-là de pouvoir côtoyer des gens qui viennent de tous horizons, et du coup, c'est hyper enrichissant.
Et vous êtes amené à parfois décrypter ce qui se passe en France à vos coéquipiers étrangers ?
Ouais, ça peut arriver des fois, parce que ils peuvent voir des news comme en ce moment, je sais pas, le virus, ou des fois c'est la politique, il y a eu un débat.
Bah, les gilets jaunes, par exemple, c'est très franco-français. Hein.
Clairement, ouais. Clairement, là, c'est il faut leur expliquer, parce que c'est aussi leur problème dans leur quotidien. Donc forcément, ils se demandent pourquoi, et chacun intervient à sa façon pour essayer d'expliquer les choses.
Est-ce que les étrangers d'Amiens sont très différents des étrangers que vous avez côtoyés au Paris Saint-Germain ?
À quel niveau ?
De la vie, de leur expérience, de leur manière, de ce qu'ils expriment, quoi, des choses dont vous parlez avec eux.
Il y a moins de Brésiliens à Amiens, quand même.
Il y a moins de Brésiliens, tout à fait.
Il y a 10 ans.
Il y en a moins. Non, bah, c'est... Pff, non, je vois pas vraiment de différence significative. Après... C'est pas... on va dire que la différence, c'est que les étrangers qui sont à Amiens n'étaient pas forcément dans d'autres clubs en Europe avant. Il y en a beaucoup qui sont arrivés directement de leur pays d'origine. Donc forcément, ça fait une différence notoire sur l'apprentissage de ce qui se passe en Europe, en France notamment.
Mais déjà, est-ce que dans le vestiaire, il y a beaucoup de discussions collectives ? Ou est-ce que c'est vraiment des apartés voisin à voisin ou autre, mais ou est-ce que de temps en temps ça discute assez largement?
Ouais, ça discute largement. Après, évidemment, celui qui est à côté de toi dans le vestiaire, tu vas avoir un rapport différent. Évidemment que la promiscuité fait que tu vas discuter un peu plus avec lui, mais il y a des envolées lyriques dans le vestiaire qui sont collectives et ça c'est plutôt cool.
Tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de portable. Le portable n'est pas du tout interdit dans le vestiaire.
Non.
Même pas les jours de match.
Non, parce que le truc, c'est qu'il y en a qui aiment bien se concentrer avec la musique.
D'accord.
Donc forcément,
oui. D'accord.
Ça peut être un... D'accord. Après, nous, on a une règle, c'est pas de téléphone 15 minutes avant la séance. Donc 15 minutes avant la séance, plus personne n'a son téléphone. Et puis les jours de match, généralement, tout le monde le pose aussi un quart d'heure avant, histoire de... Il y a toujours des consignes tactiques données par le coach. Et puis si on veut se parler entre nous, c'est quand même mieux de ne pas avoir de téléphone.
C'est mieux.
Ouais. Bah vous le posez, vous le prenez 3 mois après. En plus, on vous connaît, Christophe Jallet.
Ah, ça, c'est clair.
Vous ne le répondez jamais
ça,
au téléphone.
Ça, c'est pas ma force.
Ouais. Y a beaucoup de joueurs étrangers qui... on a l'exemple de Antoine Griezmann, par exemple, qui s'est complètement imprégné de la culture uruguayenne, qui est parti en voyage là-bas. Ouais. Vous, ça vous est arrivé de tomber sur un coéquipier étranger qui vous donne envie vraiment d'aller découvrir son pays ?
Oui, ça arrive, ouais. Après, c'est les relations qui font que... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Sylvain Armand, il s'entendait hyper bien avec Mario Yepes et il avait vraiment envie de découvrir sa vie en... Il était colombien, Mario.
Colombien, ouais.
Et donc, il est parti en voyage là-bas... passer un peu de temps avec Mario là-bas et il a vraiment adoré quoi. C'est vraiment des choses quand on peut le faire, c'est vraiment top parce que quand on apprécie vraiment une personne, on a envie de le voir sous sa vraie nature et je pense que c'est le meilleur moyen. Donc oui, ça arrive. Par contre, l'inverse, c'est rare que des étrangers s'imprennent vraiment de la culture française.
C'est vrai ?
Ouais, je pas trop vu.
Pourquoi ? Parce qu'ils sont de passage.
Ouais, on en a oui, vu y plein y a des... qui sont restés, des non, Carlos a... Bianchi vit à Paris. Enfin,
ouais, bien sûr. Non, mais ça arrive, mais c'est pas.
Pas...
Ce le cas d'Antoine, il est plus fréquent que l'inverse, on va dire.
Moi, j'ai vu Ronaldinho avec un béret et une baguette sur la plage de Copacabana il n'y a pas longtemps.
Le béret, je te crois, la baguette.
Ouais, tu vois.
Et vous, ça ne vous a pas donné envie d'aller vivre à l'étranger, justement, de rencontrer tous ces gens, toutes ces cultures ?
Bah, si, évidemment. Après, c'est des choix. Voilà, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait le choix familial. C'est pas quelque chose que je vais regretter. On a la chance d'avoir quand même un peu de vacances et de pouvoir voyager. Donc, c'est pas du quotidien, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça permet quand même de grandir en voyant ce qui se fait, pas seulement en France.
Il y a une double particularité quand on est footballeur. On va en parler des deux. Hein. C'est qu'on est dans une activité non mixte et dans une activité... peuplé de jeunes. Vous avez beaucoup de collègues qui ont 20 ans, 21 ans. Ça nous arrive très peu, nous, dans notre monde professionnel. Doucet, il a 50 ans de carrière, vous imaginez. Est-ce que ça maintient jeune ou au contraire, on est plus vite amené à se dire je suis quand même vieux et un peu largué, d'être entouré de gamins, en fait ?
Il y a un peu les deux. C'est vraiment un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on reste dans le contexte jeune parce que ils ont des codes particuliers qu'il faut qu'on apprenne si on veut rentrer dans leur cercle. Et à la fois se dire waouh, c'est compliqué quand même, j'ai plus l'âge pour ces conneries quoi.
Ouais.
C'est vraiment partagé. Après, le principal pour nous, c'est qu'on arrive à leur, enfin pour moi en tout cas, c'est réussir à leur faire passer des messages footballistiques en leur disant que, enfin en leur faisant part de mon expérience et en leur disant que surtout ça va vite quoi, qu'ils ont pas de temps à perdre, il faut qu'ils profitent un max et qu'ils se donnent à fond tous les jours parce que le foot ça dure qu'un temps et malheureusement, moi, je suis au bout du temps.
C'est une question aussi de génération. Est-ce que tu ne peux pas parler des mêmes choses avec des joueurs de 20 ans ? Un joueur de 30 ans ou qui est entre guillemets en fin de carrière, tu vas pouvoir lui parler d'après, justement. Qu'est-ce qui va se passer après ? J'imagine que c'est quelque chose qui forcément est perturbant parce qu'un joueur de foot, sa carrière, elle est rapide et à 35 ans, il faut vite faire autre chose.
Ouais, c'est sûr. Après, à 20 ans, elle peut être très rapide aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a pour certains, ça s'arrête plus vite que prévu. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et se dire que. Voilà, on a de la chance de pouvoir faire ce métier et vraiment en prendre conscience pour se dire que ça peut s'arrêter et qu'il faut tout faire pour y rester le plus longtemps possible.
Donc il y a des plans peut-être cliniques, genre je connais bien une clinique si t'es blessé, voilà, est-ce qu'on s'échange, trucs comme ça forcément, non, parce que les bons médecins, il faut les garder.
Ça peut arriver, évidemment, c'est des choses importantes. J'ai toujours gardé contact avec, avec Éric Roland à Paris.
L'ancien médecin du Paris Saint-Germain.
Ouais, parce que c'est une personne incroyable que j'ai rencontrée.
Si tu es blessé, tu vas le...
Oui, je l'appelle. Je l'appelle pour avoir son avis. Mmh. Et si je dois me faire opérer, savoir... Ouais, son avis, il a toujours été primordial pour moi. Je l'ai toujours suivi parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'admire pour tout ce qu'il a fait. Et vraiment, voilà, il y a des choses qu'on peut transmettre comme ça. Et ça m'est arrivé de dire à des amis à moi de l'appeler pour avoir son avis.
Ça, c'est un point important, le staff. Parce que là, on parle beaucoup du vestiaire, tu ne parles que des relations entre joueurs, mais il y a le staff.
Bien sûr.
Un entraîneur, vous discutez très, très peu. Dans le cadre du vestiaire, il est très, très peu présent. Même un Marco... non, ce n'est pas Marco.
Certains entraîneurs ne rentrent...
Comment il s'appelle, Elsner
Ah non, Lucas.
Lucas, oui. Marco, son père.
Certains entraîneurs ne rentrent même pas dans le vestiaire.
Oui, absolument. Et même un Lucas Elsner, qui est très jeune, mm-hmm. et à peu près ton âge,
oui, c'est ça.
À peu de choses près, il n'est pas dans le vestiaire, il n'est pas trop dans vos discussions, il ne se mêle pas, jamais.
Non, bah, quand il vient dans le vestiaire, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire, en fait. Ça peut arriver dans des moments... dans des moments de... Par exemple, on fait un jeu, l'équipe qui perd paye les pizzas, on mange les pizzas ensemble, et là, le coach, il mange avec nous, le staff est avec nous, et puis arrivent des discussions où là, il vient échanger avec nous, poser des questions, nous dire des choses, mais après, dans le vestiaire, généralement, quand il vient, c'est lui. Tout le monde n'a pas ce rapport-là. Carlo Ancelotti venait beaucoup dans le vestiaire pour s'asseoir à côté des joueurs, prendre la température, savoir comment ils allaient, leur dire deux, trois bêtises. Ouais, il faisait beaucoup ça. Il y en a qui aiment traîner
de la vie familiale et
aussi.
Il paraît qu'il était très proche des joueurs. Enfin,
humainement, c'est quelqu'un qui est top de ce côté-là et ça fait aussi sa force. Donc, chaque entraîneur a sa façon de faire, mais généralement, quand même, le vestiaire est souvent au joueur. Si le coach il est dedans, c'est parce qu'il a une causerie à faire, quelque chose à dire. Ça reste souvent dans ce cadre-là.
C'est là que c'est un peu différent quand c'est un vestiaire de femme et que c'est un entraîneur homme. C'est qu'il a peu de temps pour passer les messages. Et après, là, il y a aussi le rôle des leaders, du capitaine pour continuer à retranscrire ce message. Parce qu'à un moment donné où les hommes ne rentrent plus dans le vestiaire, quand on est à la préparation, que ce soit kiné, médecin ou entraîneur, là, ça diffère un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des petits flashs comme ça où l'entraîneur va être là pour donner les indications. Et puis derrière, il faut qu'il y ait le capitaine qui soit un lien pour mettre un peu, faire du lien, redonner certaines consignes, parce qu'après l'entraîneur il ne siège plus dans le vestiaire.
Alors justement, puisqu'on parle des femmes, je notais que dans votre milieu il y a une quasi absence de femmes, de collègues féminines. Est-ce que selon vous ça crée des gens qui n'ont pas trop l'habitude de fréquenter les femmes?
Je ne crois pas du tout, mais ça se démocratise un petit peu, en tout cas dans le staff médical. Souvent il y a des femmes maintenant, de plus en plus. Donc
elles sont très minoritaires, mais il y en a.
Elles sont minoritaires.
L'infirmière, c'est toujours une femme, par exemple. C'est l'infirmière qui est parfois un homme.
Mais c'est vrai qu'il y en a peu, mais après, ça reste dans le cadre du club en général. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le club, donc on est amené à en côtoyer beaucoup. Mais c'est vrai que dès qu'on passe le pas du vestiaire, c'est vrai que c'est quasi exclusivement masculin, ça c'est sûr.
Et je reviens sur mon cliché du début, mais les filles, les femmes, ce dont on parle, un premier samedi du mois, notre ami Sébastien Thoen, est-ce qu'on en parle quand même un peu?
Non mais évidemment, de toute façon, il y a de plus en plus de jeunes, donc célibataires, donc forcément les femmes c'est un sujet dans le vestiaire, c'est clair. Et puis, alors je vous dis pas, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça va vite quoi, donc effectivement c'est un sujet, ça il n'y a pas de discussion là-dessus, pas l'occulter quoi.
Ça arrive, les célibataires, une fois qu'on est marié après
non, tout le monde peut en parler,
comme chacun
sait. Mais il y en a qui ont des problèmes de couple et qui en parlent avec s'ils ont un ami dans le vestiaire, ça peut arriver.
Zaya, elle est sympa ou pas?
Je ne la connais pas.
On peut afficher ses problèmes personnels ou il faut être toujours fort justement?
Non, si c'est dans un cadre très restreint, si quelqu'un le fait. Après, il y a des fois des choses qui sont étalées dans le vestiaire. Par exemple, je ne sais pas, un décès familial, par exemple. Oui. Si le joueur est absent, le coach va le signifier. Et dans ce cas-là, ça reste pas dans un cadre privé. Sinon, les discussions où ça va un peu moins bien dans notre vie, c'est généralement en cercle fermé.
Est-ce que vous avez le souvenir, Christophe Jallet, dans votre carrière, d'avoir assisté ou participé à une énorme engueulade pour des raisons d'actualité, politique, je ne sais pas.
Il y en a beaucoup, mais c'est souvent sur le foot quand même.
Sur le foot?
Ouais. Après, il peut y avoir des... C'est vrai, oui, il y en a eu beaucoup, des engueulades sur des sujets complètement... hors football, ça arrive de temps en temps, et des opinions complètement inverses, mais bon, ça se finit toujours bien quand même.
Vous n'avez pas un petit exemple à nous donner, un petit souvenir sur lequel il y aurait prescription?
De but en blanc, non, mais non. Ça, je me rappelle que très bien, pendant, c'était pas dans le cadre du foot, mais avec Clem Grenier, on adorait se taquiner, et ouais. On s'est déjà pris la tête sur des sujets politiques, ça c'est clair.
D'accord. La musique, c'est aussi un thème assez important hein, dans un vestiaire. Alors vous, je crois que vous êtes un peu chanson française. On arrive à faire survivre la chanson française. Il n'y a pas de quota, c'est pas comme sur la bande FM.
Il y a Léo Ferré dans les vestiaires avant le match?
Non.
Non, pas vraiment.
Tu mettais du Frédéric François à fond avant les matchs?
Ah mais ça oui, ça je peux très bien le faire.
Ça motive, franchement ça motive.
Je crois que Léo Ferré, il n'y a que moi qui le connais dans les vestiaires.
Ah, aujourd'hui à Amiens, ouais, ça t'a pas plu.
Non, bah c'est beaucoup rap américain.
Il joue arrière gauche, donc bon.
Il y a pas de, ça tourne pas quoi.
Non, c'est assez éclectique dans les choix musicaux, mais selon les origines aussi, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui prédomine aujourd'hui, clairement, c'est le rap américain, ça c'est sûr.
Et en cinéma alors? Vous ne parlez pas que d'étuches, par exemple, mais ça parle ciné. Il y a des cinéphiles. Tu as connu un joueur
ouais.
qui était à fond, genre viens voir, j'ai chopé tel film, j'ai mon grand écran.
Aujourd'hui, c'est les séries.
Oui.
Ah ouais.
Aujourd'hui, clairement, c'est les séries. Bon, surtout qu'on a beaucoup de déplacements, donc les transports, avions, bus, en mise au vert. Moi, tu n'as pas une série à me conseiller.
Tu n'as pas Joséphine Ange Gardien la saison 2. Voilà. Elle est incroyable. Il
non, c'est plutôt, on est plus sur Camping Paradis.
Ah Ça, c'est bien, ça, tu vois. Voilà.
Bah, ça nous fait rêver.
Oui.
On parlait de matérialisme un petit peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors soit 60% des footballeurs sont subitement devenus myopes, soit la mode est aux lunettes non correctrices. Les lunettes, le téléphone bien sûr, la voiture, tous ces accessoires au sens large, ça fait partie beaucoup des conversations quand même, non?
Ouais, c'est clair. Bon, ça, déjà, quand les gens rentrent dans le vestiaire, déjà, c'est... Bon, premièrement, les habits. Est-ce que tu t'habillais dans le noir ou pas du tout?
Ouais.
ça arrive. Et puis après, oui, effectivement, footballeur est quand même hyper matérialiste dans la plupart des cas. Donc, effectivement, c'est forcément un sujet de conversation. Que ça soit, t'as vu, je me suis acheté ci ou je vais me prendre ça. Bon, après, je pense que c'est un petit peu dans tous les milieux. Mais bon, nous, c'est un peu exacerbé quand même. Je veux bien le croire.
Et quand un joueur assume d'avoir une voiture, manifestement, mais pas d'importance sur sa voiture, ce qui est le cas d'ailleurs d'un de mon conduit, je crois.
Tout à fait, ouais.
Il se fait chambrer, il est obligé d'assumer ça très fort. C'est difficile?
Non, pas besoin de l'assumer. Bon, de toute façon, après, ça dépend du caractère des gens. Hein. Lui, s'il le fait, c'est que ça lui va très bien. Et puis, voilà, il a autre chose à faire avec ses sous. Les voitures, ça ne l'intéresse pas. Bah voilà, chacun son kiff.
Est-ce que vous diriez qu'un vestiaire de foot, c'est quand même, même si alors c'est difficile peut-être pour vous de répondre à cette question, parce que vous les fréquentez depuis 18 ans, mais est-ce que c'est un microcosme à part, une sorte d'ovni?
Bah malheureusement, je n'ai pas côtoyé assez de milieux pour pouvoir en fait, faire des différences, mais je pense que oui quand même.
Oui.
C'est un petit peu particulier, j'imagine qu'on met quelqu'un... qui bosse dans l'artisanat, dans notre vestiaire pendant 2 jours, il va se dire c'est quoi, c'est fou. Ça c'est sûr et certain, évidemment. Mais c'est comme tout, on vit avec ce qu'on a. Donc c'est le vestiaire, il est comme ça aujourd'hui dans le milieu du foot. Mais voilà, même si quelquefois on a des... je veux dire, les gens changent des fois aussi. Et même si on a des avis tranchés certaines fois sur moi, j'aurais jamais ci, j'aurais jamais ça, on est tous amenés à changer bah, pour les autres quelque part des fois aussi.
En termes de camaraderie, l'idée reçue veut qu'il y ait une meilleure ambiance à Amiens qu'à Paris ou qu'à Lyon, dans un club plus prestigieux. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que ça se vaut?
Ben, moi, je ne peux pas dire que c'est vrai, puisque j'ai vécu humainement une année exceptionnelle quand j'étais à Niort, en National, où on n'avait rien. On était toujours les uns chez les autres. On a vécu une année fantastique. On a fini champion de national. Et quand je suis parti, que j'ai découvert la Ligue 1, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est fini. Je pense que des ambiances comme ça, je ne les revivrai plus. Et finalement, je l'ai revécu à Paris Saint-Germain,
ouais.
En gagnant des titres. Donc finalement, je pense que c'est surtout conditionné par les éléments qui composent le vestiaire, c'est tout. Si tu mets 5 mecs qui ont la même idée de vie ensemble, le mec va dire, j'ai passé une année fantastique. Et puis tu vas arriver dans un vestiaire, je te dis une bêtise, à un autre club de Ligue 1, peu importe lequel, et tu vas dire, ah bah là ça doit être plus tranquille, et puis finalement t'as que des merdiers dans ton vestiaire, ben au final ton année elle est pourrie. Donc Ça, c'est un faux préjugé. Non, franchement, j'ai vraiment eu de la chance, en toute sincérité. J'ai toujours eu des vestiaires vraiment fantastiques. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je vis dans le monde des bisounours ou que...
Vous mettez une ambiance fantastique.
Non, je suis résolument optimiste. Mais bon, de toute façon, moi, je pense toujours qu'il y a du bon à tirer de chacun. Et même des fois, quand on n'apprécie pas forcément quelqu'un, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est quelqu'un de bien. Donc,
Est-ce que c'est hyper dépendant, l'ambiance dans le vestiaire, est-ce que c'est hyper dépendant des résultats? Ou est-ce que dans les bons groupes, bon, ça traverse tout? Ou est-ce que vraiment, selon le résultat, l'ambiance, elle est complètement, complètement différente?
Non, oui, c'est un facteur indéniable, le résultat. On est tous compétiteurs, donc forcément, ça rentre en ligne de compte tout le temps. Après, je pense que la vie de groupe peut te permettre de te sortir de situations très compliquées. Ça, c'est... Pour moi, si un jour je suis entraîneur, franchement, la première chose que je fais, c'est d'essayer, pendant le stage de préparation, de mettre un maximum d'ambiance dans le groupe, pour que déjà il y ait un point de départ, parce que pendant les moments difficiles, t'en as vraiment besoin. Parce que si au moment où ça commence à pêcher un petit peu, ça se tire dans les pattes, à droite, à gauche, il y a des petits clans, c'est mort. Ça, c'est clair et net. Je pense que la vie de groupe, c'est un élément déterminant pour les équipes qui réussissent. Ça, j'en suis sûr.
C'était qui l'entraîneur qui a été le plus fort pour ça, pour la vie de groupe? Vous allez me dire Carlo Ancelotti?
Ah ouais, clairement.
Et le plus mauvais, alors?
Le plus mauvais que j'ai connu?
Ouais.
Ok, c'est Amir.
Non. Question. Non, vraiment pas. Je me tâte. Je dirais Christian Gourcuff.
Ouais.
Parce qu'il n'est pas démonstratif. C'est pas son truc.
Ouais. Il ne s'occupe pas de la vie de groupe.
Non, son truc, c'est
le foot. Il a des adjoints pour ça. Ouais, il envoie d'autres personnes.
Ouais, bien sûr.
Lui, c'était pas son truc.
La vie de vestiaire, c'était vraiment pas son truc. Donc, voilà, lui, il est vraiment axé football, tactique. On peut parler des heures de football avec lui. De vie de groupe, un peu moins.
Parce qu'il était constamment au téléphone avec son fils qui était blessé, donc il s'inquiétait, donc il n'avait pas le temps. Enfin, tu vois, c'est pas évident, c'est la vie aussi.
Je peux pas dire, il n'était pas blessé.
Christian, on l'aime, donc c'est compliqué.
Bon, pour conclure ce podcast et pour être sûr que vous n'aurez plus envie de revenir, je vais vous laisser entre les mains de Sébastien Thoen fameux petit question-réponse de fin.
Absolument, je vais synthétiser. Merci Hervé, je vais un peu synthétiser ce qu'on a dit. En gros, il y a eu deux mouvements formidables, il y a le hashtag MeToo, et maintenant il y a le hashtag MeToo. Évidemment. Donc je vais te donner évidemment une phrase, un point de vue, et tu vas me dire si c'est un hashtag mytho ou si c'est vrai. Voilà, dis-moi, t'es prêt Christophe?
Ouais, je suis prêt.
Alors hashtag mytho ou pas, jingle. Christophe, les joueurs de football aiment collectionner les voitures?
Collectionner, je pense pas, mais en avoir une belle, oui.
Ok. Donc les deux, ça marche, mytho, ouais. Et voilà, là, en fait t'as répondu, ouais, okay. Ouais. Donc hashtag mytho et en fait pas mytho, ok. Les joueurs de football jouent tous à FIFA sur PlayStation?
Faux, je n'y joue pas. Hashtag mytho.
Et que toi?
Mais donc on ne peut pas dire tous.
Bonne réponse, il m'a eu. Les joueurs de football mettent 2 heures à se coiffer? Hashtag mytho ou pas? Bah toi évidemment oui, plus, toi tu mets 3 heures, mais les autres?
Il faut vraiment que je réponde. Non, franchement ça va.
Les joueurs de football ne lisent pas de livres? Alors ça c'est vraiment un... Moi j'aime pas ça, c'est un a priori, mais alors hashtag
non.
Mytho ou pas?
Les joueurs de foot en lisent pas beaucoup, mais en lisent quand même.
Les mémoires de David Douillet, des choses comme ça.
Non, oui. Alors, il y a beaucoup de biographies sur les sportifs. Ça, c'est clair. Mais il y en a tout. J'ai vu Jordan Lefort cette année qui lisait des livres sur la création d'entreprises. Donc,
ah,
voilà.
Carrément.
On voit tout.
Hashtag mytho ou pas, les joueurs de football se mettent carpet en discothèque. Fais gaffe, j'ai un dos sur toi.
Oh, tu peux en avoir plein, ça c'est sûr et certain. Mais... je vais pas jusqu'à la carpette, mais bon, se mettre carpette, il y en a, oui, mais de plus en plus quand même, il y a une évolution qui fait que les joueurs, pour la grande majorité, ne boivent plus d'alcool, donc je serais plus tenté de dire hashtag mytho.
Parce qu'on a parlé du final de Coupe de France où ça finit près des Champs-Elysées.
Oui.
Et t'es un peu en slip sur la table à l'aventure.
En slip? Mais tu veux toujours me voir en slip?
Mais bah c'est un fantasme peut-être. C'est ce que je te dis.
Écoute, je me rappelle pas, mais en tout cas j'y étais. Ça
voilà.
C'est sûr.
Tu vois,
il se rappelle pas cette nuit en fait.
Les joueurs de football ne flashent que sur des filles issues de la télé-réalité.
Bah faux. Hashtag mytho.
Alors à part toi, oui, mais les petits jeunes.
Mais les jeunes s'y mettent de plus en plus, c'est clair.
Et dernier hashtag mytho ou pas, et ça, c'est, ça vaut le coup. Les joueurs de football espèrent tous bosser à Canal+, passer 40 ans.
C'est une reconversion idéale et sympathique.
Donc, c'est pas hashtag mytho. Merci Christophe.
De rien.
J'allais vous le dire, vous retrouvez ce podcast sur MyCanal et sur les plateformes de podcast. Merci Christophe Jallet.
Avec plaisir.
Merci à tous. On vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal+. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne. À très bientôt donc.